Donc, des fois, quand en regardant les différentes choses qui se passent, nous avons peine à allumer la télévision, tellement il y a de mauvaises nouvelles. Donc, des fois, il suffit d'écouter les actualités. Quand on regarde ce qui se passe, nous entendons qu'il y a des guerres, des bruits de guerre, des soulèvements à gauche, à droite. Nous entendons qu'il y a des famines, des épidémies, un peu de tout. Et là, cette semaine-ci, même les semaines précédentes, il y a des kidnappings, des homejackings. Il y a un peu de tout. Et ce ne sont pas des choses qui sont faites pour nous rassurer. Certaines personnes sont arrivées au point à se dire je ne veux même plus allumer la télé, tellement les nouvelles sont mauvaises. Mais le fait de ne plus allumer la télé, les mauvaises nouvelles sont toujours là. Et le jour où on va l'allumer, ça nous fera un plus gros choc. Et en tant que chrétiens, nous devons quand même avoir les yeux fixés sur ce qui se passe, histoire de savoir dans quel temps nous sommes et savoir dans quelle période nous sommes, histoire d'être éveillés pour savoir ce que nous devons faire. Économiquement parlant, ce n'est pas mieux. Nous entendons parler de taxes, de surtaxes à l'importation, à l'exportation. Il y a des sociétés qui ferment et cela ne rassure pas forcément tout le monde. Et que dire, moralement, ce n'est pas mieux. Donc, dans une certaine émission, les gens, ils se marient au premier regard. Ils arrivent à leur mariage sans jamais avoir vu la personne, tout simplement parce que les statistiques ont dit cette personne est compatible avec toi, tu vas l'épouser. Et il y a des nouveautés, je n'ose même pas en parler. Si vous avez vu, vous savez de quoi je parle. Quand vous arrivez, vous savez qui vous allez épouser. Dieu, il a institué le mariage. Et nous voyons que maintenant, le mariage est totalement désacralisé. On se marie quand on veut, on divorce quand on veut, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, tout cela pour dire que le monde va mal. Mais je pense que vous n'avez pas attendu ce matin que je vous le dise. Vous vous êtes tous rendu compte bien avant, je suppose, n'est-ce pas? Tout le monde a dû faire ce constat, que le monde va mal. Là, face à une situation que nous voulons améliorer, la première étape à faire, c'est de faire un constat. Donc, je ne dis pas qu'à nous seuls, nous allons pouvoir tout changer, mais là où nous sommes, nous avons quand même notre part à jouer, nous avons notre rôle à jouer. Le problème, c'est de voir, de savoir et de ne rien faire et d'aller se coucher la conscience tranquille et de se dire tout va bien. Donc, nous avons quand même un rôle à jouer. Donc, là, le constat est fait, le monde va mal. Et si le monde va mal, c'est certainement parce que les hommes ont rejeté Dieu. Pour certains, ils ont rejeté Dieu totalement parce que voilà, ils n'en veulent pas. D'autres l'ont rejeté parce qu'il y a eu des situations qui sont passées et du coup, ils l'ont rejeté. D'autres l'ont rejeté par effet de mimétisme, sans trop comprendre qui il est. Mes parents n'y vont pas, mes parents n'aiment pas. Oh, dès qu'on parle de Dieu, non merci. Je n'en veux pas. Donc j'imite, sans jamais savoir qui est Jésus. On rejette juste parce que, voilà. Donc on rejette Dieu. Juste pour imiter. Il faut savoir que pour certaines personnes, le fait de rejeter Dieu, c'est une lutte dans ces personnes, c'est un combat. Ce sont des personnes qui cherchent Dieu, mais qui ne l'ont pas trouvé. Ce sont juste des personnes qui attendent qu'on leur parle de Dieu. Et comme on disait hier dans notre groupe d'hommes, comment ces personnes connaîtront Dieu si personne ne va leur parler? Pour certaines personnes, elles se sont construites elles-mêmes. C'est grâce à moi, j'ai étudié. J'ai tout fait, je suis intelligent, j'ai réussi, j'ai monté ma boîte. C'est grâce à moi. Pourquoi tu viens me parler de Dieu? J'ai tout fait. Après, la personne ne se sent pas forcément plus coupable qu'une autre parce qu'elle estime que tout va bien dans sa vie. Donc, il y a plusieurs personnes qui rejettent Dieu pour des raisons diverses et variées. Donc, ce sont des personnes qui ne ressentent pas le besoin d'avoir Dieu dans leur vie. Malgré cela, nous savons que Dieu aime toute l'humanité et veut que tous les hommes soient sauvés. Le premier texte que nous allons lire, c'est le texte de Jean 3, verset 16 jusqu'au verset 20. Ce texte-là, il a été cité dimanche dernier par Émile. Et généralement, ce texte-là, quand il est cité, on parle de juste Dieu a tant aimé le monde, mais Émile l'a utilisé d'une façon, exactement de la même façon que moi, je vais l'utiliser. Et moi, je me dis que la probabilité que deux personnes à 8 jours d'intervalle utilisent le même texte faisant ressortir les mêmes choses, certainement Dieu a quelque chose une fois de plus encore à dire en ce matin. Donc le texte, c'est le Jean de Jean 3,16, et nous lirons jusqu'au verset 20, où il dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur cœur, leurs œuvres, étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Généralement, quand on lit ce texte, on s'arrête au verset 16, car il nous fait du bien. Et généralement, dans ce verset, on retient « Dieu a tant aimé le monde ». Waouh, ça nous fait du bien, Dieu a tant aimé le monde. Mais ce verset ne dit pas que ça. Déjà dans ce verset 16, il est question de, il y a la notion de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pour ceux qui croient. Il ne suffit pas de dire « je crois et j'ai la vie éternelle ». Parce que la Bible nous dit, Satan aussi, il croit que Dieu existe. Et ce n'est pas pour ça qu'il ira au paradis. Donc il y a la notion de vie éternelle, mais il y a aussi son contraire. Il y a aussi le mot périr. Donc pour ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Pour ceux qui ne croient pas, c'est la mort éternelle. Cette notion-là, elle est bien là. Malheureusement, dans bien des cas, il y a une chanson qui est utilisée pour une association qui dit, nous irons tous au paradis. Ça, c'est la chanson qui le dit, c'est pas ce que Dieu dit. Dieu dit bien que ceux qui croient, c'est la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas, ils périssent. La suite du texte nous dit que Dieu a envoyé son Fils pour sauver le monde, mais que certaines personnes l'ont rejeté en préférant les ténèbres à la lumière. Donc là, comme je disais, donc la première étape, c'est de faire le constat. Donc ce constat étant fait, que le monde va mal, et malgré cela, Dieu veut quand même sauver toute l'humanité, nous devons passer à la deuxième étape. La deuxième étape que nous mettons en place, c'est de mettre un plan d'action. Donc nous savons qu'avant de mourir sur la croix pour le salut de toute l'humanité, la mission de Jésus était d'attirer à lui les hommes. En tant que chrétien, notre mission aujourd'hui, elle n'a pas changé. C'est aussi d'attirer à Jésus les hommes, les âmes perdues, celles qui ont préféré choisir les ténèbres à la lumière. Nous aussi, nous avons une mission de continuer ce que Jésus il avait commencé à instituer. Dans cela, il n'y a pas trois options. Il n'y a pas « je crois en Dieu »,« je ne crois pas en Dieu », »,« je suis entre les deux, je ne suis pas trop mal, donc j'espère que… » Non, c'est soit je crois, j'ai la vie éternelle, je ne crois pas, et c'est la mort éternelle. Donc, une fois que nous avons fait le constat il est fait, le plan d'action, il est fait. Donc, notre plan d'action est le suivant. 2 Corinthiens 5, verset 20. Où il est dit ceci. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc dans ce texte, il y a déjà plusieurs termes. Donc le premier terme, celui qui nous concerne, donc c'est le terme ambassadeur. Donc le titre du message, nous sommes ambassadeurs pour Jésus-Christ ou nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Donc un ambassadeur représente une nation, un pays, un royaume dans un autre pays. Le pays là où se trouve l'ambassadeur n'est pas le sien. En tant que chrétien, nous sommes de passage ici. Nous sommes ambassadeurs, mais nous sommes de passage. Le travail que Jésus-Christ a commencé, nous continuons là où Christ nous a placés, puisque nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Jésus-Christ parle à travers nous. Des fois, malheureusement, là où Dieu nous a placés, nous cherchons d'abord notre confort, notre sécurité, et nous oublions la mission que Dieu nous a donnée. Notre mission est de réconcilier les hommes avec Dieu. Et chose importante aussi dans le texte, c'est qu'il est dit, même en les suppliant. Généralement, quand on supplie quelqu'un, c'est on supplie pour nous, en notre faveur, en faveur de quelqu'un qu'on aime. Je vous en supplie, non, ne le tuez pas, ne me tuez pas, non, non. On supplie pour nous, parce qu'on a un intérêt. Mais là, on supplie pour les gens eux-mêmes, pour leur âme, pour que ces personnes soient sauvées. Parce que si elles n'acceptent pas, c'est la mort éternelle. Donc si vous avez quelqu'un à côté de vous que vous connaissez, suppliez, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Le salut pour nous est gratuit, mais s'il est gratuit pour nous aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un a payé. Comme nous venons juste de célébrer la scène, quelqu'un a payé. C'est la raison pour laquelle le salut est gratuit et qu'il est offert à tous. Et que tous sont invités, tous ceux qui ne le connaissent pas sont invités à l'accepter. Le travail de l'ambassadeur, c'est un travail actif. Donc dans certaines religions, nous entendons « je suis croyant, mais non pratiquant ». Au service de Dieu, il n'y a pas de non-pratiquant. Il n'y a pas d'ambassadeur non-pratiquant. Si vous devez aller chez un dentiste, vous avez mal, vous allez chez un dentiste, il vous dit « je suis dentiste non-pratiquant », je pense que vous n'allez pas rester. Après, ce sont vos dents. Si vous voulez y aller, allez-y. Dans toutes les histoires, l'histoire de France et ailleurs, il peut y avoir des bons comme de mauvais ambassadeurs. Mais pour garder en tête à la fin de la prédication ce qu'est un bon ambassadeur, je vais d'abord commencer par expliquer ce qu'est un mauvais ambassadeur. Donc, il y avait une fois un ambassadeur de France qui était allé dans un pays du Maghreb, je crois que c'était à l'aéroport, et en fait, il avait eu une altercation avec une femme, et ça s'était mal passé, donc il avait plutôt mal parlé, et la France s'en était ressentie mal, puisque voilà, on avait critiqué la France, l'ambassadeur, si, l'ambassadeur, cela. Donc on a rappelé cet ambassadeur qui est revenu en France, on lui a parlé, on lui a demandé d'essayer d'arranger la situation. Et c'est ce qu'il a fait. Il est revenu, et en fait pour amadouer la gente féminine, donc voilà, donc il a fait des photos de lui en slip, mode Chippendale, voilà, montrant ses muscles. L'État l'a rappelé à nouveau, c'était pas ce qu'on t'a demandé. Vas-y, merci beaucoup, fais autre chose. Un ambassadeur ne peut en aucun cas dire ou faire autre chose que ce que dit le roi ou le gouvernement dont il est ambassadeur. Pour ce qui concerne l'ambassadeur chrétien, il ne peut représenter Dieu s'il ne sait pas ce que dit Dieu. Cela va de soi. L'ambassadeur doit connaître le cœur de Dieu. Le cœur de l'ambassadeur doit totalement changer au point de ressembler à celui de Dieu pour agir, aimer, penser comme lui. On ne peut être ambassadeur de Dieu sans savoir ce que Dieu veut. Comment savoir ce que dit Dieu? C'est tout simplement en ayant une relation avec Dieu et en se plongeant dans la parole de Dieu. Le psalmiste disait dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds, est une lumière sur mon sentier. Et toujours dans le même psaume, au verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La vie du psalmiste était basée sur ce qu'il connaissait de Dieu à travers sa parole. Sa vie n'était pas régie par une philosophie, par une approche approximative de ce que Dieu disait, mais elle était vraiment basée sur ce que dit Dieu. La parole de Dieu n'évolue pas au gré des circonstances, des temps. Comme l'a cité aussi Magali ce matin, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. De nos jours, c'est mal perçu de garder la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Certaines personnes veulent la faire évoluer, veulent la moderniser. Oui, mais ça c'était avant, maintenant, il faut que tu comprennes que... Attends, oh. Donc non, la parole de Dieu ne change pas. Si on veut la changer, ce n'est plus la parole de Dieu, c'est notre parole. Dans ce cas-là, nous ne sommes plus ambassadeurs de Dieu, nous sommes ambassadeurs de nous. Matthieu 24, 35 dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Une fois de plus, on ne peut pas représenter quelqu'un et ignorer ce que nous demande celui que nous voulons représenter. Jean 13, 34 à 35 nous dit, Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. La nature de Dieu est amour. L'amour de Dieu envers les âmes perdues doit transpirer à travers l'ambassadeur. Dieu est amour et c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour sauver les hommes. Mais il est aussi juste. Et c'est la raison pour laquelle il nous demande de réconcilier les hommes avec lui. L'ambassadeur doit refléter la nature de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19, donc c'est le même texte que notre texte de référence. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Là encore, il est question de réconciliation entre les hommes et Dieu. Mais avant de réconcilier les hommes avec Dieu, sommes-nous nous-mêmes réconciliés entre nous? Nous pouvons très bien arriver à l'église et nous sommes fâchés avec un frère, avec une sœur. Il peut très bien y avoir un conflit entre mari, femme, entre parents, enfants, cousins, cousines. Ces choses ne doivent pas se faire, ne doivent pas perdurer dans le temps. Nous pouvons très bien dire à Dieu, « Dieu, tu sais, tu connais toutes choses, tu sais que ce n'est pas moi, c'est lui, c'est elle. Tu connais mon cœur, tu sais que je t'aime. » Imaginez l'apôtre Jean qui se présente devant Jésus, il lui dit, « Jésus, tu sais, moi je t'aime beaucoup, je veux te servir, mais Marc, Luc, déjà quand j'arrive, je fais comme si je ne les connaissais pas, je ne les vois même pas. » Est-ce qu'on pense que Jésus aurait dit, « Tu sais, je te comprends, hein, c'est une chose qui arrive. Tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le monde. Ben, continue, fais comme si de rien n'était. » Ou est-ce que nous pensons que Jésus leur a dit d'aller d'abord se réconcilier, comme il est dit dans Matthieu 5, 23 à 24. « Si donc au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. » Pour éviter d'être nous-mêmes de mauvais ambassadeurs, il y a des qualités que nous devons rechercher à avoir et il y a aussi certains défauts, des choses que nous devons abandonner, certaines mauvaises pratiques. Quand on regarde par exemple l'évolution de la chenille, nous savons que la chenille au début elle rampait jusqu'à son évolution où maintenant elle vole. Dans la vie du chrétien, il y a un changement, il y a une évolution. Je ne dis pas que l'évolution, elle est radicale, elle est tout de suite, elle est immédiate quand on rencontre Dieu. Mais il y a quand même une progression, il y a des choses qui se font. Nous n'avons jamais vu dans le ciel un papillon voler avec son ancien cocon. Il a totalement abandonné. Donc, le problème, c'est quand on sait que la chose n'est pas bonne, mais qu'on continue à la garder, à la chouchouter, à la garder. Cependant, nous savons qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas se débarrasser de certaines mauvaises pratiques. Il y a plusieurs années de cela, en fait, c'était un jour où je prêchais aussi, et j'avais quasiment terminé la prédication, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu à cœur de parler de quelque chose. Ce n'était pas du tout dans le contexte de la prédication, mais j'ai eu à cœur d'en parler, tout comme j'ai encore à cœur d'en parler ce matin. Cette chose, c'est la suivante. J'avais dit ce jour-là qu'il y a des personnes qui allaient à l'église et qu'après, ces mêmes personnes pouvaient aller consulter des voyants. Ça peut paraître bizarre, mais j'avais sorti ça. Mais je ne sais pas pourquoi je l'avais dit, mais je l'avais dit. Et il y a quelqu'un que je connaissais, qui était ma voisine à l'époque quand j'habitais à Champigny, et qui connaissait quelqu'un de cette église, et qui m'avait dit, « Eric, ce que tu as dit là, quelqu'un est fâché contre toi. » Je dis, « Ah bon ?» Ouais, parce qu'en fait, c'était la pratique de la personne. Mais ça, je ne savais pas. Et il s'avère que c'était ce que la personne faisait. Donc si c'est encore le cas de personnes aujourd'hui, on ne peut pas connaître Dieu et après aller consulter les voyants. Parce que depuis quand est-ce qu'on prie Dieu et après on va consulter les voyants pour voir où en est sa situation? Depuis quand on consulte Dieu et après on consulte Satan? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on fait. Pour certaines personnes, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors que nous savons que Élie, dans 1 Roi 18, 21, dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Notre mission en tant qu'ambassadeur est de réconcilier le monde avec Dieu. Si nous-mêmes, nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, si nous-mêmes, nous sommes fâchés entre nous, si le monde voit que nous avons les mêmes mauvaises pratiques que lui, comment pouvons-nous réconcilier le monde avec Dieu? Nous ne pouvons pas être ambassadeurs pour Dieu, sinon être de mauvais ambassadeurs. L'ambassadeur ne peut se retrouver dans n'importe quel lieu pour profiter. Nous allons lire un autre texte qui se trouve dans 2 Rois 10, versets 17 à 27. Je pensais le résumer, mais je pense que c'est mieux de le lire, parce que je préfère lire la parole que faire des résumés de la parole. C'est mieux de lire la parole. Nous lisons, il dit ceci. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruisit entièrement, selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu le servira beaucoup. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il n'en manque un seul, car je veux offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. » Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Il dit, « Publiez une fête en l'honneur de Baal. » Et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y en avait pas un qui ne vint. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Rekab. Et il dit aux serviteurs de Baal, « Cherchez et regardez, afin qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs de Baal. » Et les entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « Celui qui laissera échapper quelqu'un des hommes, je remets entre vos mains, sa vie répondra de la sienne. » Lorsqu'on a eu achevé d'offrir les holocaustes, je lui ai dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-les, que pas un ne sorte, et les frappèrent du tranchant de l'épée. » Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors la statue de la maison de Baal et les brûlèrent. Ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ce jour. Donc juste avant, il y avait Jéhu qui avait détruit tous les prophètes de Baal, un peu partout, ils avaient détruit tout ce qui était stèle et autres, et il avait continué. Là, dans ce texte-là, Jéhu, il a agi par ruse. Jéhu n'était pas au service de Baal, Jéhu était au service de l'Éternel, mais il avait agi par ruse parce qu'il voulait tuer tous les serviteurs de Baal restants. Et nous voyons bien que Jéhu précise que la fête, c'est une fête en l'honneur de Baal, dans la maison de Baal. Il ne dit pas que c'est une fête patronale, c'est une fête municipale, c'est une fête de quartier, venez comme vous êtes, on va s'amuser. Non, il dit que c'est une fête de Baal, en l'honneur de Baal. Et à notre grand étonnement, dans la deuxième partie du verset 23, il y dit ceci. Il dit, recherchez, cherchez s'il se trouve des serviteurs de l'Éternel. C'est pourtant une fête dédiée à Baal. Dans une fête dédiée à Baal, on cherche des serviteurs de l'Éternel. Donc je ne sais pas s'ils étaient identifiés ou identifiables, mais en tout cas, il a demandé de les faire sortir. Et il y en avait pas mal. Tous les serviteurs de Baal étaient là, mais les serviteurs de l'Éternel aussi étaient dans une fête dédiée à Baal. Ça donne à réfléchir. Des fois, nous pouvons inviter un non-croyant à l'église et il va nous donner toutes sortes d'excuses. Ah non, tu sais, moi je ne peux pas. C'est l'église. Ouh non, je ne peux pas. On fait une fête en l'honneur de Baal, il y a tous les prêtres de Baal et il y a aussi les serviteurs de l'Éternel qui s'y trouvent. Nous faisons une fête quelconque, c'est que de la viande. Une fête pour les carnivores, on évite des véganes, ils ne viendront pas parce qu'ils savent qu'ils n'auront rien à manger. On fait une fête pour Baal. Il y a des serviteurs de l'Éternel. L'ambassadeur de Dieu ne peut pas se retrouver dans n'importe quel lieu. Après, s'il y va pour évangéliser, mais après, c'est... L'ambassadeur a toujours un surabri. Donc, nous pouvons toujours nous abriter, nous appuyer sur Dieu. Et l'ambassadeur n'est jamais seul. Quel que soit ce qu'il fait, il peut toujours prier Dieu, demander à Dieu son secours, son soutien, avant d'aller faire ce qu'il doit faire. Comme je disais juste avant, donc nous devons aussi acquérir des qualités. Donc pour être un bon ambassadeur pour Christ, il faut d'abord connaître le caractère de Christ dont nous sommes ambassadeurs. Nous l'avons vu juste avant, le caractère, la nature de Dieu, de Christ, est amour. Nous avons vu Jean 3,16 et la suite, et nous savons ce qu'il en est dit. L'ambassadeur de Christ ne se réjouit pas du malheur des autres. Proverbe 24,17 nous dit... Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Il y avait une fois au travail, donc on était en formation, donc il y avait plusieurs services, différents départements ensemble. C'était une période où, en fait, il y avait le jeûne jusqu'au lever du soleil, jusqu'à la fin du soleil. Et il y avait une fille qui était dans cette période-là et il y avait un collègue qui avait fait une erreur. Donc on lui a rapporté que le collègue a fait une erreur et elle a dit « Chet !» Les jeunes savent de ce que c'est. Ça veut dire, c'est bien fait pour toi, en fait. Tu as fait une bêtise, c'est bien fait. Et j'ai été surpris parce qu'elle était dans cette période-là, je me suis dit, ah là, elle devrait être... Non. Mais il n'y a pas qu'elle. Est-ce que nous aussi, nous ne faisons pas la même chose, nous aussi? Combien de fois nous pouvons entendre, ah, bien fait pour toi. Ça ne doit pas arriver. Bien au contraire, si ton ennemi tombe, nous devons aller le relever. Proverbe 25, 21 à 22 nous dit « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. » Quand il a faim, quand il a soif, on ne lui donne pas à manger disant « Tiens, vas-y, mange, tiens, bois. » Non, c'est avec amour. Ce n'est pas pour se débarrasser de lui. Nous ne devons pas non plus rendre le mal pour le mal. Même s'il est tentant de tendre un croche-pied à celui qui nous a fait un croche-pied, des fois c'est tentant, mais il ne faut pas le faire. Romains 12, 21 nous dit « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Il rend le bien pour le mal. Nous savons que lorsque Jésus a été arrêté, il y avait le serviteur du grand sacrificateur, Malchus. Pierre lui a coupé l'oreille. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a guéri l'oreille. Donc ça, c'est dans Luc 22, 51. Jésus a guéri l'oreille de celui qui lui voulait du mal. Combien de fois, nous aussi, nous voulons faire du bien à quelqu'un qui nous veut du mal? Ça, c'est la nature de Christ. Aider quelqu'un, guérir l'oreille de quelqu'un qui veut nous arrêter. Nous serons bien souvent amenés à d'abord exercer notre mandat d'ambassadeur au sein de l'Église, au sein de notre propre famille, avant de l'exercer à l'extérieur. Nous devons aussi avoir, en tant qu'ambassadeur, de la compassion. Il y avait une fois dans une église, ça c'est une histoire vraie, comme les autres d'ailleurs, il y avait dans une église américaine, devant sur l'escalier, donc l'église, il y a les marches, il y avait un SDF qui était assis là. Et tout le monde est rentré dans l'église, personne n'a fait cas de lui, les chantres, les musiciens, diaconesses, tout le monde. Tout le monde est passé, personne ne l'a regardé, tout le monde est rentré. Et il arrive à un moment donné que, voilà, c'est l'heure du culte, et le pasteur n'est pas encore arrivé. Donc tout le monde se pose des questions. Il est où le pasteur? Finalement, le SDF qui était là, qui a attendu depuis un bout de temps, il se dit, bon, je vais rentrer. Et il rentre. Et les gens se disent, bon, mais il aurait pu rentrer au moins à l'arrière. Mais non, mais il va tout devant. OK, on s'étonne. Et finalement, il se déshabille. Et quand il se déshabille, on se rend compte que c'est le pasteur. Le pasteur était assis sous les marches de l'escalier. Personne n'a fait cas de lui. En tant que SDF, personne n'a fait cas de lui. Et là, on s'est rendu compte. Donc, le pasteur voulait voir quelle était la nature de ses membres, des membres de son église. Nous aussi, nous devons user de compassion. Des fois, nous pouvons voir des personnes passer à côté, ne rien dire. Donc, c'est un peu la situation comme la parabole du bon samaritain. L'ambassadeur, il pardonne. Matthieu 26, 33 à 35, c'est l'histoire de Pierre. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Mais ne jugeons pas Pierre trop vite. Parce que combien de fois nous aussi nous avons renié Jésus? Quand au travail ou ailleurs, on nous a tendu une perche, on aurait pu dire, quand on dit, ah là là, c'est Dame Nature qui a fait ça. Non, c'est pas Dame Nature, c'est Christ qui a fait ça, c'est Dieu. On aurait pu dire, on n'a rien dit. Combien de fois nous avons renié Dieu? Combien de fois nous avons rien fait? Quand quelqu'un nous a tendu une perche pour parler, pour dire, oui, c'est Dieu qui a fait ça. On a préféré botté en touche. Donc n'accusons pas Pierre trop vite. Nous savons que Pierre a renié Jésus comme Jésus l'avait annoncé. Et pourtant, c'est à ce même Pierre qu'il dit dans Jean 21, 14 et suivant, « Paix, mes agneaux. » Le texte est affiché. Qu'est-ce que Jésus lui a dit juste avant? Est-ce que Jésus lui a fait un reproche? Voilà quelqu'un qui a renié Jésus, pas une fois, pas deux fois. Il a renié. Est-ce que Jésus lui a dit quand il l'a vu, « Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais pas dit que tu allais me renier hein? Qui c'est qui a raison ?» Est-ce qu'il lui a dit ça?
Non.
Pas un mot. Pas une remarque, pas un reproche, pas une critique. Nous aussi, nous sommes appelés à pardonner. Des fois, nous pouvons garder des dossiers. Ce que tu m'as fait le jour du repas fraternel, là, je n'oublie pas. Ce que tu m'as fait telle année, je n'oublie pas. J'ai ça à te dire, j'ai un dossier contre toi. On garde des dossiers. Est-ce que c'est bien? Non, Jésus n'a pas rappelé le souvenir des fautes. Il y a un grand footballeur qui a dit un jour, je pardonne, mais je n'oublie pas. Il était fier d'avoir dit ça. Le principe du pardon, c'est d'oublier. Donc, l'ambassadeur pardonne. On ne retient pas. Et il y a encore d'autres qualités que nous pouvons avoir. Nous arrivons au principe de la réconciliation. Où et quand l'ambassadeur peut-il exercer son ministère pour la réconciliation? 2 Timothée 4, versets 2 à 5 nous dit prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. À travers ce texte, nous voyons que l'ambassadeur est appelé à saisir toutes les occasions, favorables ou non, en toutes circonstances pour évangéliser. On peut très bien croiser quelqu'un qui passe là. On n'ose pas lui parler. On se dit, oui, mais si on lui parle, il ne vient pas à l'église. Ça, ce n'est pas trop notre problème. Notre problème, c'est de parler aux hommes, quelle que soit la situation. Des fois, malheureusement, ce que nous cherchons, c'est, nous voulons parler à la personne, l'emmener à l'église, la convertir, l'emmener au baptême. C'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons parler à quelqu'un. La personne est là de passage. Peut-être que c'est la seule fois que la personne passe. On lui parle de Dieu. La personne entend. La personne, elle va dans sa ville. Quelqu'un d'autre lui parle. Elle va encore ailleurs. Quelqu'un d'autre lui parle. La personne entend jusqu'à comprendre. Que la personne comprenne, accepte de suite, ce n'est pas trop notre problème. Notre problème, c'est de parler de Dieu. C'est de semer. Ça aussi, nous avons vu ça en partie dans le groupe des hommes. Nous semons. Ça rentre dans le cœur des gens. C'est ce que Dieu a fait. De même que pour nous aussi, quelqu'un a semé un jour, on n'a pas forcément compris tout de suite. Il y a des personnes qui aujourd'hui acceptent Christ parce que ce sont des personnes à qui on a parlé depuis l'école du dimanche, qui n'ont pas compris, qui peut-être qu'il y a une phase de rébellion jusqu'à ce que maintenant les personnes puissent comprendre, connaître et accepter. Des fois, nous choisissons à qui nous allons parler. Nous voyons quelqu'un qui a le visage fermé, on se dit « Waouh, lui là !» Alors que la personne a peut-être un visage fermé, c'est sa nature. Peut-être que la personne a le visage fermé parce que la personne a des souffrances, la personne a envie d'entendre parler de Dieu. On se dit, elle a un visage plus souriant, ah, c'est plus facile. Et en fait, c'est elle qui est plus fermée à la parole de Dieu. Donc des fois, nous choisissons à qui nous voulons parler. Et ce n'est pas du tout comme ça que nous devrions faire la chose. Certaines personnes peuvent se dire qu'elles n'ont pas la même facilité, la même faculté d'aller parler à quelqu'un. Je suis un petit, mais je n'aime pas trop parler, je n'ai pas le contact facile. Et alors que là, la parole de Dieu nous dit, insiste, saisis toutes les occasions, favorables ou non. Nous avons des situations qui se présentent à nous. Donc même si on n'arrive pas à aller vers les personnes, aujourd'hui nous sommes dimanche, demain quand nous arrivons, pour certains à l'école, d'autres au travail, généralement on nous dit, alors, comment s'est passé ton week-end? Qu'est-ce qu'on fait? Là, il y a deux solutions. Soit on s'est ennuyé pendant le culte, ou on a un peu honte de Dieu, on dit, bof, mon week-end s'est passé tranquille, j'ai rien fait, j'étais là, sans plus. Hein. Ou soit on dit, j'étais à l'église hier, j'ai assisté au culte. Tous les dimanches, nous avons un culte. Nous avons de la louange, les sœurs prient, ça me met bien, les frères prient, des fois il y a des témoignages, on est édifiés, on est... Ouh. Des fois il y a des exhortations et des prédications, on change de prédicateur, c'est bien. Et d'ailleurs, puisque ça t'intéresse, je t'invite mardi, ou bien dimanche. Nous avons toujours la possibilité, si on n'arrive pas à aller vers les personnes. Donc demain, quand on dira, comment s'est passé ton week-end? Ça a été très bien, par la grâce de Dieu, j'étais au culte hier. Donc, même si on se dit qu'on est timide, nous avons toujours la possibilité de dire des choses. Moi, je connaissais quelqu'un, c'est une fille, c'était une ancienne voisine, amie d'enfance en même temps, qui arrivait à placer des choses à n'importe quel moment. Elle avait passé un diplôme, elle était devenue ingénieure agronome, et dans n'importe quel contexte, elle mettait ça. On parle de quelque chose, ah oui, moi je suis ingénieure agronome. Je pense que si nous avons fait quelque chose et qu'on a envie de parler de quelque chose, si par exemple nous sommes allés à Dubaï, on dit, ah, il y a des oiseaux. Tiens, comme à Dubaï. Ah ouais, comme à Dubaï. On vend des glaces. On vend des glaces à Créteil. Oh, comme à Dubaï. Oh. Si on a envie d'en parler, on peut le faire. Quand ça nous intéresse, on arrive à le dire. Mais si on a honte, on va se cacher. Non, j'étais là, j'en ai rien fait, j'étais là, j'aurais de la télé. Donc, alors, on peut se dire, quelle sorte d'ambassadeur je suis? Nous savons que, ici, dans cette église, il y a des enfants qui ont grandi à l'école du dimanche, qui ont servi à un moment donné, d'autres qui ont abandonné, d'autres qui sont partis. Nous avons des parents à qui nous avons déjà parlé aussi, qui n'ont pas accepté, d'autres, des voisins, des connaissances que nous avons, à qui nous voulons parler. Nous savons que la mission de l'ambassadeur, c'est de parler aux hommes de Dieu. Nous allons chanter le prochain chant, et à travers ce chant, nous allons le chanter comme une prière, tout en pensant à nos propres enfants, nos propres parents, la propre ville dans laquelle nous sommes, le propre pays dans lequel nous sommes. Nous allons le chanter en pensant à toutes ces personnes à qui nous avons déjà parlé, qui n'ont jamais accepté Christ. Et si le cœur vous en dit, juste après, si vous voulez prier pour un sujet, enfin, je parle bien de ce, dans ce contexte-là, pas des demandes autres, mais dans ce contexte-là, prier pour des parents, des enfants qui ont accepté, qui ont abandonné, qui sont refroidis, qui sont ailleurs, nous pouvons prier pour cela. Donc nous prions, nous gardons en tête de prier pour la ville, pour le pays, pour nos parents, nos familles.
Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole, ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu changes nos vies. Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles. Tu es celui qui change des vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Tu es celui qui a inspiré cette œuvre. Qui l'amènera jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays, envahis nos villages, viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Les défis sont grands, nous en avons conscience. Tu les connais mieux que nous, Jésus. Mais nous voulons croire que rien n'est impossible. Saint-Esprit, viens viens toucher nos familles maintenant. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant, Seigneur, souffle sur... Oh, envahis, envahis nos villages. Viens toucher nos familles maintenant. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Souffle maintenant, fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Fais tomber la pluie. Fais tomber la pluie d'en haut. Fais tomber la pluie du ciel. Souffle sur nos pays, envahis nos villages,
viens toucher nos familles.
Maintenant,
Seigneur, fais connaître le nom
qui peut guérir les nations, le nom de Jésus-Christ. Maintenant, maintenant,
Seigneur,
nos pays envahis. Viens toucher nos familles maintenant.
Maintenant, Seigneur,
fais
connaître le nom
qui peut guérir les nations. Le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. Amen.